Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Chaque année, la période qui précède Noël voit tristement s'effacer les marques de notre culture chrétienne et surtout de la foi qui la nourrit. On parle de fêtes de fin d'année, les crèches sont mises à l'index dans les bâtiments publics, les crucifix interdits sur le fameux marché de Strasbourg. Il reste encore, certes, les calendriers de l'Avent, mais ils sont souvent subvertis par les propositions commerciales les plus diverses. Et pourtant, il n'est pas question de s'en tenir à ce triste constat et d'en faire une fatalité inexorable, d'autant qu'il existe sur le terrain des initiatives qui, sans faire de bruit, font un travail formidable pour souffler sur les braises de la foi dans notre pays. On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Alexandre Caillé, il est directeur général de SOS Calvaire, qui restaure les calvaires de nos routes, avec Thibaut Collin, également initiateur de Jeanne 2031, qui propose de se mettre à l'école de Jeanne d'Arc pour réévangéliser la France, justement. Louis-Pierre Laroche sera également avec nous. Il lance ces jours-ci un mouvement de Vierge pèlerine en France qui reprend l'idée de pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie. Et puis, bien sûr, Véronique Jacquier sera avec nous. On en parle dans cette émission qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite, les infos de la semaine avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, les persécutions contre les chrétiens continuent, notamment au Nigeria.
Bonjour Aymeric et bonjour à tous. Le dernier rapport de l'aide à l'église en détresse est alarmant. Publié à l'occasion de sa semaine de campagne de sensibilisation sur la liberté religieuse, il relève que l'oppression des chrétiens a augmenté de 75% dans 24 des pays étudiés par l'association, et dont le Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest, menacé depuis plusieurs années par l'émergence des groupes djihadistes. Les chrétiens en payent un lourd tribut.
7600 chrétiens tués, 400 églises ou institutions chrétiennes attaquées en moins de 2 ans. Un constat dressé par Mgr Mathieu, archevêque nigérian de la province de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Invité à une conférence de presse organisée par l'aide à l'église en détresse, le prélat lance un appel à l'aide.
Il doit être clair pour tous que la persécution des chrétiens fondée uniquement sur leur foi et non sur les crimes qu'ils auraient pu commettre constitue l'une des plus grandes menaces pour notre existence et notre humanité commune.
Au Nigeria, les chrétiens représentent près de la moitié de la population, soit 95 millions de fidèles. Avec l'émergence des groupes terroristes comme Boko Haram, mais aussi les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insécurité se propage.
Chez moi, j'ai 5 chiens pour me prévenir du danger, donc je ne peux pas dormir. Voilà la situation dans laquelle je suis obligé de vivre.
En juin 2022, l'attaque d'une église avait fait 50 morts dans le sud-ouest du pays, une région qui est normalement relativement préservée des tensions.
Il est clair que notre type de persécution est systémique et endémique. Nous sommes dans une situation où les gens souffrent en silence. Même s'ils pleurent, personne ne les entend. Quand quelque chose de spectaculaire arrive, alors là, le monde découvre notre réalité.
Malgré le danger, malgré les menaces, et comme le croit Mgr Mathieu, c'est l'espérance et leur foi en Dieu qui animent toujours le cœur de ces chrétiens persécutés.
Mercredi, les cloches de dizaines d'églises ont sonné dans toute la France et le Sacré-Cœur de Montmartre s'est paré de rouge pour les chrétiens persécutés dans le monde. L'aide à l'église en détresse a aussi organisé une veillée de prière à laquelle nous nous sommes rendus. Les fidèles qui sont venus en nombre pour prier pour leurs frères étrangers, écoutez-les.
C'est pour les soutenir déjà, parce qu'ils sont en train de traverser des périodes très difficiles.
Nous sommes tous dans la même église, nous sommes tous frères et sœurs. On sent un peu démunis parce qu'on est loin, parce qu'on ne vit pas cette situation. Et la prière, c'est notre seule arme.
Je pense surtout aux pays du côté de l'Afrique, les différents pays qui souffrent de ce terroriste, de cette violence qui n'a pas de nom et qui est vraiment inhumaine. C'est insupportable, sans compter que les familles des victimes collatérales sont des personnes écorchées vives, dont la douleur ne s'arrêtera jamais.
Le cardinal Zen condamné à 500 euros d'amende à l'issue d'un procès qui aura donc duré 2 mois. Arrêté en mai dernier, l'ancien évêque d'Hong Kong a été accusé par le régime chinois d'avoir constitué de façon irrégulière un fonds d'aide aux manifestants pro-démocratie. Une condamnation légère qui fait suite à l'accord entre le Vatican et Pékin. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. La proposition doit être examinée au Sénat dans les prochaines semaines. La Chambre haute pourrait y faire obstacle, comme elle l'a déjà fait lors d'un examen d'un texte similaire le 19 octobre dernier. La réaction de Pascal Morinière, présidente des associations de familiales catholiques.
C'est une démarche idéologique qui va dans le sens de toujours plus d'IVG. Ce n'est pas un droit qui est menacé aujourd'hui en France, bien au contraire, on n'est pas dans la situation des États-Unis. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la loi Gaillot. En février dernier, elle a encore allongé les délais de l'avortement de 12 à 14 semaines. Et on a des chiffres de l'IVG, 223 000 en 2021, qui sont au plus haut par rapport aux autres pays européens. Donc, si ce droit des femmes est gravé dans le marbre de la Constitution, eh bien, on peut se demander ce que le droit de l'enfant à la vie, lui, deviendra très précaire, avec le risque de faire disparaître la double clause de conscience des soignants ou d'allonger sans fin les délais de l'IVG. La plupart des chrétiens, je pense, hein, on est toujours du côté du plus petit, du plus faible. Et en l'occurrence, le plus petit, le plus faible, c'est l'enfant à naître. Et on ne peut pas considérer que sa vie a de la valeur à 9 mois ou à 8 mois et n'a pas de valeur à 6 mois ou à 4 mois ou à 3 mois.
C'est le premier jour de l'Avent et déjà les crèches font polémique alors que le Conseil d'État a confirmé l'interdiction dans sa commune au nom de la laïcité. Julien Sanchez, maire de Beaucaire, persiste et signe. Il promet de maintenir la crèche et a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour lui, c'est une question de tradition.
Ici, à Beaucaire, les traditions provençales, elles sont bien ancrées. Traditions provençales, camarguaises, d'ailleurs vous voyez derrière moi, le costume d'Arlésienne, vous voyez les taureaux, vous voyez le santon également. Depuis 2014, dans la mairie, j'installe la crèche provençale avec plus de 250 santons. La scène de la nativité, évidemment, mais c'est quelques santons sur 300 et ça fait partie d'une crèche. Donc moi, je suis assez scandalisé qu'on nous demande de renoncer à notre culture, à nos traditions. J'installerai tout de même une crèche en mairie de Beaucaire cette année parce que, tout simplement, ça n'est pas la même exposition et en matière d'art, nous avons été condamnés pour 2017-2018, mais ça n'est pas la même exposition. Donc on ne peut pas nous obliger a priori à ne pas l'installer. On ne pourra nous le dire qu'a posteriori, quand on aura vu, constaté ce qu'il y a dans cette crèche. Sinon, c'est l'interdiction de l'art en général.
C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
Merci Éloi Rochebrune. Comment réévangéliser la France, justement, vaste chantier, mais certains ne se résignent pas au fatalisme, c'est le cas de nos invités. Alexandre Caillet, bonjour.
Bonjour Émeric.
Vous êtes le directeur général de SOS Calvaire, une association fondée en 1987 pour restaurer les calvaires de nos routes de France. Vous nous expliquerez. Avec vous également Thibaut Collin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie, initiateur de Jeanne 2031. 2031 parce que dans 9 ans, nous fêterons les 600 ans de la mort de Jeanne d'Arc à Rouen en 1431 et vous nous expliquerez ce que vous entendez faire à travers cette longue période de 9 ans. Et puis Louis-Pierre Laroche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la France qui prie et qui lance, vous lancez ces jours-ci un mouvement de vierges pèlerines, les vierges de Fatima. Vous nous expliquerez, le lancement c'est le 3 décembre à l'île Bouchard. Et puis Véronique Jacquet, bien sûr, est avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour à tous.
Noël est-il, la fête de Noël est-elle en danger? C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde le constat. On a entendu parler des crèches à l'instant, mais exemple aussi avec ces fameux calendriers de l'Avent qui sont devenus très commerciaux. Regardez ce reportage d'Éloi Rochebrune.
Tradition chrétienne depuis le 19e siècle, le calendrier de l'Avent est devenu peu à peu un business comme un autre. Les 24 images religieuses ont été remplacées par 24 chocolats, 24 bières ou encore 24 produits de beauté. Année après année, le temps liturgique de l'attente a laissé place à une dérive commerciale.
calendrier de l'Avent accompagne en fait ce temps d'attente. Vous savez, il y a cette parole du Christ, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Les calendriers de l'Avent sont une pédagogie de la patience, un apprentissage de l'attente, ce qui est tout différent évidemment de la frénésie liée aux cadeaux.
Super, à tout à l'heure.
Il n'y a pas de chocolat alors, dedans et c'est beaucoup mieux. Voilà.
Dans les couloirs de cette librairie parisienne, cette grand-mère nourrit quelques regrets. Elle aussi a cédé à la frénésie.
Bon, j'étais au Monoprix et je vais acheter un calendrier de l'Avent de Kinder et je ne suis pas contente. Beaucoup de petits-enfants ne vont pas au catéchisme, ce qui est le cas de mon petit-fils. Et justement, moi, je voudrais commencer un petit peu à l'initier. Noël, ce n'est pas les chocolats tous les jours, 24 jours avant la naissance de Jésus.
Il y a le petit Jésus.
Le premier jour de l'Avent, c'est aussi le moment de ressortir la crèche. Avec le calendrier, ces traditions constituent une catéchèse quotidienne pour préparer son cœur à fêter Noël.
Les petits personnages, des fois, sur le calendrier, permettent aux tout petits d'identifier les personnages bibliques. Par exemple, la Vierge Marie, la maman de Jésus, le petit Jésus, Joseph, le papa de Jésus, que les enfants n'ont pas toujours en image. Pour nous, il n'est juste pas concevable qu'on passe... un avant sans la crèche ou alors sans faire le calendrier.
Le 25 décembre, le petit Jésus fera son grand retour dans la crèche. En attendant, patience.
Voilà le reportage enquête de Éloi Rochebrune. Thibaut Collin, première question pour vous. Est-ce que finalement cette période de l'Avent donc, qui précède Noël dans le calendrier chrétien n'est pas aussi d'une certaine manière l'attente de la renaissance de la foi dans notre pays et on a l'air bien démunis quand même face à ce vaste chantier.
Bah, le temps liturgique est cyclique, donc chaque année, il nous invite à se remettre dans cette perspective de l'attente et préparer nos cœurs à la naissance de Jésus ou à la mort et à la résurrection de Jésus au moment de Pâques. Et donc, effectivement, on a tendance à voir l'histoire comme quelque chose de linéaire, ce qui est vrai, bien sûr. Et là, on va nous dire, les courbes des pratiquants baissent. Mais en fait, on est toujours pris dans un temps cyclique. Et le Seigneur fait chose toute nouvelle. Donc,
pas de fatalisme, un renouveau est possible.
Bien sûr. Et puis l'histoire est faite par des êtres humains. Et la grâce divine est toujours active. Donc, il n'y a aucune raison de considérer, d'être rivé simplement aux statistiques comme si c'est elle qui... aller être la vérité de ce qui se passe. Il y a des choses en profondeur qui se passent et qui sont très importantes à écouter et préparer notre cœur à cette dimension.
Alors il y a une phrase qui est utilisée dans la liturgie de l'Avent, c'est « préparer les chemins du Seigneur ». Alexandre Caillé, votre initiative avec SOS Calvaire, donc de restaurer les calvaires de nos routes, ça s'inscrit finalement dans cette dimension d'attente, mais qui n'est pas une attente passive, hein, puisque votre action de terrain le prouve, quelque chose est possible.
Exactement. Je pense que l'incarnation précède la rédemption et donc la passion du Christ par sa croix. Et nous, en restaurant des calvaires, en restaurant ces vieilles pierres, on redonne un petit peu son sens et à la passion et à Noël. En fait, on est dans un temps où l'homme n'accepte plus vraiment les grandes permanences qui s'imposent à lui. On essaie de vivre plus longtemps, etc. On a parlé de l'IVG au début de ce journal. Si on perd le sens du petit enfant Jésus à naître pour nous sauver, on perd le sens de la croix. Donc c'est important de... Voilà, tout est un peu lié. Et non, pas de fatalisme. On est bien actif.
Louis-Pierre Laroche, l'Avent, c'est aussi un temps de prière. Et vous, votre initiative, donc La France qui prie, et puis maintenant les Vierges pèlerines que vous allez lancer, vous nous l'expliquerez bien sûr. Mais c'est, vous croyez en l'efficacité de la prière ?
Tout à fait, on croit en l'efficacité de la prière, on la voit cette efficacité. Mais quand on parle de l'Avent, quand on parle de Noël, je pense que la réflexion première, Noël c'est une fête, et la réflexion première, pour faire la fête, on a besoin d'une cause. Et quelle est la cause? Il faut revenir à la cause. La cause, c'est l'incarnation, comme nous l'a précisé
Alexandre
Caillé.
C'est
voilà,
une précision, l'Avent, c'est l'attente et c'est 4 semaines avant Noël.
Tout à fait. Et c'est 4 semaines d'attente pour, à cause de cette cause, l'incarnation de Jésus qui va venir et puis qui va nous sauver. Et ça rejoint un peu l'initiative que nous faisons à la France Prie, donc avec le chapelet, parce qu'on appelle la Sainte Vierge dans les litanies, on l'appelle cause de notre joie. Et pourquoi c'est la cause de notre joie? Parce qu'elle est là, et quand on voit la Sainte Vierge, en fait, elle nous annonce Jésus. Et c'est pour ça qu'elle est la cause de notre joie. Et donc, pendant
l'Avent, il faut s'adresser à elle en premier, si je
puis dire. Tout à fait. Et on le voit d'ailleurs avec, dans les apparitions qu'il y a eu à Lourdes et à Fatima, les enfants qui voyaient la Sainte Vierge, et même à l'île Bouchard, les enfants qui voyaient la Sainte Vierge, ils voulaient tout de suite aller au ciel. C'était leur joie qui était là. Et ils s'en emparaient tout de suite, oui.
Thibaut Collin, vous, votre initiative, donc Jeanne 2031, ça veut dire que c'est une initiative de longue haleine. Hein. Là, on parle des 4 semaines pour l'Avent. Vous, c'est 9 ans. Pourquoi faut-il autant de temps et pourquoi le lancer maintenant, pendant l'Avent ?
Alors, parce que le temps de l'Avent, c'est, comme on vient de le voir, un temps où on se prépare à la venue de Jésus-Christ. Et finalement, la vie de Jeanne, ça a été d'être fidèle et d'être attentif à la volonté de Dieu sur elle dans un moment historique assez dramatique. Hein, on est en pleine guerre de 100 ans. Il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, en France. Il y a la guerre avec les Anglais, mais il y a aussi beaucoup de problèmes dans l'Église. Et il me semble qu'il y a de profondes analogies entre son époque et la nôtre. Et voilà, 9 ans pour se mettre à l'école de Jeanne, pour la prier, et surtout pour se mettre à l'école de ses vertus, c'est-à-dire essayer d'exercer ses propres vertus, c'est-à-dire le courage, l'espérance, la prudence. Enfin, voilà. Et l'idée, c'est que chaque année soit consacrée à une méditation et à une incarnation de chacune de ses vertus. Et ça, il faut du temps. Et le Seigneur travaille dans l'histoire, mais il travaille dans l'histoire aussi à travers nous et par nous. Hein. Il aurait pu libérer la France comme ça, par un coup de baguette magique. Non, il est allé chercher cette petite paysanne et il l'a formée.
Véronique Jacquet, puis Louis-Pierre Laroche.
Et qu'est-ce qu'une neuvaine de 9 ans, en fait, concrètement, le mot neuvaine ?
Un neuvaine, ça désigne donc, en général 9 jours, ça peut être 9 mois, en vue de préparer un événement. Et là, l'événement, comme l'a dit Aymeric, c'est les 600 ans de la mort de Jeanne, donc qui est quand même la patronne secondaire de la France, hein, et qui a une aura extraordinaire encore aujourd'hui. Hein, le nombre d'ouvrages qui sort sur elle en fait est permanent. Donc voilà, donc il s'agit de se mettre dans cette perspective et on a tendance un peu à être dans le temps court, hein, et là il s'agit de prendre le temps de s'ouvrir à l'action de Dieu dans nos cœurs, et si l'Église nous donne des saints, c'est justement pour se mettre à leur école. Et
donc vous n'êtes pas dans le temps médiatique ni politique.
Exactement.
C'est un peu ça. Hein,
exactement.
J'entends bien.
Et il ne s'agit pas de faire un mouvement spirituel ou un mouvement politique. Il s'agit de se laisser travailler profondément par l'exemple de Jeanne, et qu'on commence à rentrer peu à peu dans la vie de Jeanne. En fait, on est très très profondément touché. Et donc j'invite tous les téléspectateurs à aller sur le site et qu'on va peu à peu alimenter par toutes sortes de textes et d'initiatives locales pour entrer sur ce chemin, en fait.
Ce qui est intéressant, et on y reviendra, hein, bien sûr, à votre initiative, mais quand la ville d'Orléans a été libérée, il me semble que le cri sorti du cœur des habitants, c'était Noël. Donc voilà, on est quand même bien dans notre temps liturgique.
Oui, moi j'ai bien apprécié tout à l'heure votre remarque de la participation active du chrétien, parce que quand on parle de réévangéliser la France, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc la bonne nouvelle de l'incarnation, de Jésus qui va nous sauver, de la victoire sur le mal qui aura lieu dans par la rédemption et la mort sur la croix et la résurrection. Mais comme on blague toujours, j'ai toujours une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est libre et qu'on doit y participer au bien. Il n'y a personne qui nous y oblige. Voilà.
Mais alors justement,
c'est à nous de travailler et de participer.
Il y a une phrase dans l'Évangile qui est terrible aussi, Alexandre Caillé, c'est quand il parle du retour du Christ, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et aujourd'hui, on peut quand même se poser la question en regardant la réalité. Vos initiatives sont formidables, on va en parler, mais il y a quand même un triste constat au départ.
Exactement, c'est dans l'Évangile de Saint-Luc, mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ça, c'est une très bonne question. On peut chacun imaginer qu'il le trouvera dans nos cœurs. Chacun a son initiative à présenter, etc. Nous, je sais qu'à l'association, c'est une phrase qui nous anime beaucoup, parce que quand on remet un peu des pierres les unes sur les autres, quand on bâtit des calvaires pour la gloire de Dieu, si le Seigneur, quand il reviendra sur terre, il voit ces belles pierres qui ont été scellées, etc., peut-être pourra-t-il déceler la foi de ceux qui les ont posées. Voilà, donc c'est pour ça qu'on
essaie d'avoir... C'est votre espérance.
C'est exactement.
On va voir juste après la publicité, la pause publicitaire, justement, comment est-ce que vous restaurez, vous fabriquez même ces calvaires, et puis plus largement, comment renouer avec la foi catholique en France. Les petits ruisseaux, vos initiatives de terrain, peuvent-ils faire les grandes rivières d'un retour de la France à son identité chrétienne? Vous restez avec nous pour entendre la suite. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, comment réévangéliser la France et le peuple français en partant de son patrimoine, notamment qu'il soit matériel, concret ou immatériel, spirituel et historique. On en parle aujourd'hui avec Alexandre Caillé, le directeur général de SOS Calvaire, avec Thibaut Collin, l'initiateur de Jeanne 2031, Louis-Pierre Laroche qui lance ces jours-ci un mouvement de vierges pèlerines en France, et puis Véronique Jacquier qui nous parlera d'un précédent historique des grandes processions mariales de l'après-guerre. On en parle évidemment en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, SOS Calvaire, pour commencer avec cette initiative, cette association, c'est 35 ans d'expérience, 300 bénévoles en France, 10 croix restaurées par mois, une association qui s'est donnée pour mission d'offrir aux particuliers, mais aussi aux collectivités, la possibilité de restaurer à moindre coût les calvaires de France. C'est un patrimoine religieux souvent oublié. Regardez ce reportage dans les locaux de l'association, un reportage signé Michael Chailloux.
Ceci n'est pas un atelier de menuiserie comme un autre. Sa spécialité, la réalisation de croix en chêne pour réhabiliter des calvaires. Celle-ci mesure 7,20 m de haut pour 3,20 m de large.
Là, j'ai fini la taille de la croix. Donc je vais passer à l'assemblage, donc c'est-à-dire assembler le stipe, donc la partie verticale, avec le petit boulum qui est la partie horizontale.
En 2022, l'association, grâce à son réseau de bénévoles, a permis la rénovation de 125 calvaires en France. Des municipalités ou des particuliers font appel à SOS Calvaire.
Un calvaire, c'est la trace du passé. Voilà, la trace de la mémoire de la foi de ceux qui l'ont posée.
Il faut 2 jours en moyenne pour fabriquer une croix neuve. 8 modèles existent en catalogue de 520 à 1600 euros. La statue du Christ, très souvent en fonte, subit des opérations de sablage et anti-rouille avant d'être repeinte.
On a un Christ qui vient de la région de l'Indre, pour la mairie d'Argy par exemple. Donc on doit le restaurer, refaire la croix et reposer la croix là-bas. Mmh. Et à côté, là on a des Christ, typiquement ces 3 Christ qu'on nous a donnés, qui vont pouvoir resservir sur des nouvelles croix, sur soit des restaurations, soit des implantations de nouveaux calvaires.
En France, la plupart des calvaires ont été implantés début 19e, après la Révolution, par des prêtres missionnaires. Mais aucun recensement précis n'existe, d'où cette application lancée cette semaine par SOS Calvaire.
C'est une application qui va servir à inventorier tous les calvaires qu'on peut trouver en France. On ne sait pas du tout combien de calvaires il y a en France. C'est un travail qui n'a jamais été fait, d'inventorier ces calvaires.
8000 calvaires sont déjà répertoriés sur l'application où chacun peut en ajouter un nouveau, photo à l'appui. L'association espère ainsi lancer un grand mouvement de rénovation de ce petit patrimoine religieux français.
Voilà le reportage signé Michael Chailloux. Évidemment, les images sont impressionnantes, Alexandre Caillé. Néanmoins, pourquoi avoir choisi les calvaires en 1987, donc lorsque l'initiative a été lancée?
Oui. Pourquoi les calvaires? Un calvaire, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel, entre le terrestre et le céleste. Ça, on le voit, il y a des gens qui viennent pour la croix, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent pour le Christ. Et en fait, dans les calvaires, tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire que c'est très concret.
C'est fédérateur, c'est un signe fédérateur.
Exactement, oui. C'est des croix qui sont partout, c'est omniprésent, des traces chrétiennes qui sont omniprésentes dans nos campagnes, dans nos paysages, etc. Bon, à Paris, il n'y en a qu'un seul, mais partout en France...
Dans le 18e.
Exactement, voilà. Et partout en France, il y en a partout. Et donc, ces traces-là, il ne faut pas les abandonner et il faut surtout comprendre ce qu'il y a derrière.
Véronique Jacquier.
Oui, on a des églises qui tiennent encore debout, mais on a justement des calvaires partout en France, mais qui étaient abandonnés, disons les choses. Ah, donc oui. Vous, c'est une façon de remettre aussi visible ce patrimoine chrétien. Exactement. Mais qui dit visibilité, dit évangélisation ou réévangélisation, forcément. Non, il y a un acte militant derrière.
Il y a un acte de foi, je dirais plus qu'un acte militant. En fait, nous, on remet la croix au centre du village dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on lui redonne sa beauté, parce que c'est un bel objet, un calvaire, c'est avec des Christ en fonte, etc. C'est très travaillé, c'est magnifique.
Il y a beaucoup de travail pour restaurer un calvaire?
C'est beaucoup de travail. Alors tout dépend de la restauration. Il y a plein de types d'actions au sein de l'association. Nos bâtisseurs, donc nos bénévoles, On parle d'action. Donc il peut y avoir des actions très simples de débroussaillage, de fleurir un calvaire. C'est déjà une action pour nous. Parce que voilà, c'est rendre le lieu qui est beau. Voilà, et puis le passage de la terre au ciel. Mais par contre, il y a des restaurations plus lourdes où il faut refaire la croix, il faut retravailler sur les éléments présents. On essaie de garder un maximum, d'être resté fidèle au calvaire qui était là avant. Et donc, il y a beaucoup de travail souvent.
Et c'est un budget aussi, on imagine ?
Et c'est un budget, oui, tout à fait. Donc nous, on a créé un catalogue de croix qui sont disponibles pour les mairies et pour les particuliers. Donc si jamais les particuliers veulent mettre des calvaires chez eux, c'est possible grâce à notre catalogue de croix. Et ça va de une croix la plus simple est à 500 euros à peu près, et ça peut aller jusqu'à 1 000-1 500 euros à peu près. Voilà, pour des croix de 4 mètres de haut.
Alors, vous l'avez dit, on l'a vu en tout cas, on l'a entendu dans le reportage, un calvaire, c'est aussi une histoire.
Tout à fait.
C'est pas seulement un signe visible dans le paysage, mais c'est l'histoire, et ça fait suite finalement à une épopée même missionnaire, souvent au 19e siècle, c'est ça en France ?
C'est ça, oui, c'est ce qui a été dit dans le reportage. La plupart des calvaires en France sont des croix de mission. Donc les missions, c'était au 19e siècle, après la Révolution française, pour redorer un peu le blason de l'église et pour réévangéliser nos campagnes. Les prêtres allaient visiter les chaumières, visiter les foyers. Il y avait des sermons, il y avait des enseignements, et puis des processions, et puis à la fin, une croix était posée. Voilà, c'est pour ça que vous voyez mission 1890, etc., sur les croix. Et alors nous, donc évidemment, on n'est pas dans une évangélisation directe quand on travaille. Nous, on travaille sur la croix pour restaurer la mémoire de ceux qui les ont posés, la mémoire de nos pères, et restaurer la gloire de notre père.
Véronique ?
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et vous êtes de plus en plus sollicité,
oui.
Notamment par des gens qui ne sont pas croyants et qui vous disent « j'ai envie de restaurer le calvaire qui est à côté de chez moi ». Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a l'attachement au patrimoine. Il y a un vrai renouveau dans la France du pays réel. Il y a une vraie aspiration pour le concret. C'est-à-dire que l'Église souvent nous donne un peu des expressions, l'Église ou la société nous donne un peu des expressions spirituelles ou des vies un peu éthérées. Nous, c'est très concret, c'est-à-dire qu'on va dehors sous la pluie, on porte des charges lourdes, on redresse des croix et en fait, les gens ont soif de concret.
Une réaction peut-être, Louis-Pierre Laroche, sur cette dimension ?
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette mention du concret. Parce que c'était le sens aussi de l'initiative La France Prie, d'aller prier le chapelet auprès des calvaires, justement, leur redonner la vie. Et la prière, en fait, qu'on a demandé à les gens, et ont suivi, on a demandé une prière publique sur la place publique, où on sortait de l'église et on posait un acte concret de se déplacer vers les calvaires pour aller prier ici, pour asseoir concrètement, en fait, cette prière pour la société, parce que la société, c'est ce qui se passe, non pas dans l'église, mais c'est ce qui se passe dans la société, sur la place publique. Donc, les calvaires sont un lieu de prière en France aussi. Donc, c'est même protégé par la loi. On a le droit de prier auprès des calvaires, dans les alentours directs du calvaire. Et donc, on se rassemble ici, et c'est cet acte concret aussi de sortir comme... Disons, la religion catholique, c'est aussi, c'est plein de choses concrètes. Quand on fait un pèlerinage, on se déplace aussi vers un lieu bien concret pour concrétiser notre foi et puis en même temps la pénitence, oui, sous la pluie. Et puis...
Exactement, oui.
Thibaut Collin, est-ce qu'on peut évangéliser par le patrimoine ? Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, c'est très bien de restaurer des chapelles, des calvaires, c'est beau, ça nous rappelle des souvenirs pour les plus anciens, mais ça ne sont que des pierres ou du bois. Est-ce que vraiment c'est un acte missionnaire que de restaurer comme le fait SOS Calvaire ?
Comme le disait Alexandre, beaucoup de croix de calvaires ont été posées à l'époque des missions, notamment au 19e siècle, ou même... bonne première moitié du XXe siècle. Donc c'est effectivement le signe de cette foi qui s'incarne dans le paysage. Après, les calvaires, ils évangélisent si on prie autour ou si on pose un acte de foi. Moi, j'ai pris l'habitude depuis un ou deux ans, j'ai repris cette vieille tradition de me signer quand je passe devant un calvaire, notamment en voiture. Et ma Haute-Loire d'adoption... en fait, il y a des calvaires presque partout, donc je ne cesse de faire des signes de croix. Et en fait, c'est pas juste un signe de croix, c'est un acte de foi et de demander au Seigneur de toucher les cœurs de ceux qui habitent autour, de ceux qui peuvent passer devant. Et cette présence, elle n'a de sens que si effectivement elle nous encourage à prier. Nous,
Véronique,
c'est parti. Oui, on voit sur les vidéos, ce sont des jeunes qui font partie de SOS Calvaire. On n'a vu que des jeunes dans le reportage. Comment vous l'expliquez? Quelle est la moyenne d'âge et qu'est-ce que ça dit d'une génération aussi, finalement?
Alors, ce sont des jeunes. On a que des jeunes à l'association. Il y a des jeunes très jeunes et des jeunes moins jeunes. On a des jeunes mariés, on a aussi des jeunes retraités. Mais c'est vrai que donc c'est très intergénérationnel, c'est le message que je voulais faire passer. Mais c'est vrai qu'on a une majorité de très jeunes qui ont soif de se donner un peu, de se donner un peu de peine pour le bon Dieu, parce que ils ne trouvent pas dans la société actuelle, je pense, de quoi assouvir leurs besoins les plus profonds.
Est-ce que tous sont forcément catholiques?
Pas forcément. Non, il y en a qui, c'est ce que je disais, il y en a qui viennent pour la croix, juste le bois de la croix, et puis il y en a qui viennent pour le Christ. Et souvent, ceux qui viennent pour la croix repartent avec le Christ, et ça, c'est une source de grande joie.
On peut signaler aussi que votre initiative dépasse les frontières de la France, hein, puisque notamment, je crois, en Arménie, vous avez aussi, vous êtes en train de restaurer...
Exactement, on a posé un rashkar. Donc, en Arménie, les villages sont construits autour de ce rashkar, donc c'est un calvaire, mais local. Et en fait, ils construisent d'abord ce rashkar comme un signe de ralliement, et après, tout le village est construit autour. Et donc l'année dernière, on est allé poser un rashkar en Arménie, à la frontière.
Voilà, pays martyr aussi, hein, malheureusement, exactement. Par l'actualité. Alors parlons à présent, Louis-Pierre Laroche, des Vierges Pèlerines, hein, puisque donc, c'est un mouvement qui a déjà été lancé à l'extérieur là aussi des frontières, en Suisse et en Autriche. Et pourquoi avoir voulu, à partir de votre mouvement La France Prie, hein, qui a été lancé pendant le Covid, décliner votre initiative par finalement des processions, puisque c'est ça?
Ça va devenir une procession du Cœur Immaculé de Marie à travers la France, trois processions d'ailleurs, puisque nous avons acquis trois statues de la Vierge du Cœur Immaculé de Marie.
Donc de Fatima, hein,
de Fatima, Portugal. Tout à fait. On les a fait venir du Portugal, elles ont été sculptées en bois au Portugal. Et ces trois statues vont pèleriner dans la France pendant... Pour le moment, on a vu pendant une année, puis ça va se poursuivre très certainement. L'idée était... Puisque la France Prie a commencé avec le Covid, où on a prié le chapelet, on a prié pour la résolution de cette crise qui est maintenant résolue. Et l'idée est venue de Suisse, les Vierges Pèlerines, c'était...
Quasiment, on va dire.
Oui, quasiment, pas entièrement, mais en grande partie. Et l'idée est venue de Suisse, en fait, parce que ce chapelet, on se disait, mais les gens vont s'essouffler. À notre grande surprise, ils ne se sont pas essoufflés. Ça, c'était déjà la grande surprise, c'est que les chapelets continuent.
Vous savez combien de personnes, à peu près, y participent encore aujourd'hui?
Eh bien, dans le monde entier, on estime à au moins 50 000 personnes qui participent chaque mercredi. Donc, c'est énorme. Si on est à plusieurs millions de dizaines de chapelets depuis le début de l'année. Donc, c'est énorme. Et donc, ce mouvement des Vierges Pèlerines, c'est un peu pour asseoir. Il y a eu un essor d'une dévotion mariale. Et puis, pour l'asseoir sur des fondements solides, en fait... avec le message de Fatima qui nous est revenu avec l'actualité quand même au mois de mars.
De l'Ukraine.
La guerre en Ukraine, la consécration de la Russie par le pape. Donc le message de Fatima nous est revenu à l'oreille. Et ce message de Fatima, c'est deux fois, c'est le 13 juin 17, c'est le 13 juillet 17. La Sainte Vierge dit aux enfants, Dieu veut que l'on instaure la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc on s'est dit, ben écoutez, on a tous ces gens-là. Et donc on invite les gens qui font le chapelet, en fait, qui se retrouvent. On leur dit « Invitez la Sainte Vierge chez vous » et c'est là qu'ils s'inscrivent sur le site internet et nous on fait le trajet des Vierges Pèlerines. Voilà.
Alors il y a un précédent dans l'histoire de ces dernières décennies, Véronique, c'est le pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour qui a commencé pendant la guerre et s'est poursuivi ensuite et a eu vraiment un retentissement considérable en France.
Oui, une expérience spirituelle intense à l'échelle de la France, vraiment, on l'a oublié d'ailleurs, hein. En pleine guerre, en août 43, quatre statues de la Vierge Marie partent de Lourdes et sillonnent la France par quatre voies différentes. 16 000 paroisses en tout visitées, donc pendant 5 ans, jusqu'en août 1948. L'objectif, la mission, faire revenir les Français à la foi, à travers la consécration au cœur immaculé de Marie déjà. Il y a eu 15 millions de consécrations qui ont été distribuées dans le pays, qui comptait alors 40 millions d'habitants. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Et partout où passent les Vierges Pèlerines, il y a beaucoup de ferveur, il y a les villes qui sont habillées de fleurs. On prie d'ailleurs en pleine rue, on invoque Marie en lui disant « Sauvez la France !» Ramener nos prisonniers, c'est dire évidemment le contexte de l'époque. L'initiative aura tellement de succès que certains diocèses organisent de grands rassemblements, en particulier pour les malades. 40 000 personnes, par exemple, réunies à Marseille en 1945 ou à Lille en 1947. Et tenez-vous bien, en juin 1946, 100 000 personnes réunies dans le stade de Colombes en région parisienne pour une veillée de prière. Alors, ce qui a fait le succès de ces vierges pèlerines, c'est dans un contexte, bien entendu, de traumatisme d'après-guerre. Hein, c'est en partie, bien entendu, que la communication a joué sur le thème du retour Notre-Dame, du grand retour, la prière pour le retour de la France et des Français à Dieu. À l'époque, ça parlait à la population.
Louis-Pierre Laroche, est-ce qu'on pourrait imaginer un tel mouvement, une telle ampleur aujourd'hui?
Tout à fait, parce que si on... ces vierges pèlerines, c'était donc Notre-Dame de Boulogne qui était arrivée jusqu'au Puy en 1943, je crois donc. Et ensuite, on ne savait plus quoi en faire. Et c'est quelques routiers, hein, c'est le mouvement scout, quelques routiers qui se sont dit on va les amener à Lourdes parce qu'il va y avoir un congrès marial à Lourdes. Donc ça a commencé de rien du tout, ce n'était pas organisé du tout. C'est un petit peu comme nos vierges pèlerines. Bon, c'est organisé un petit peu, mais on est très peu nombreux. Et comme on le voit maintenant en Suisse, où ils ont commencé au mois de mai, ou en Autriche, où nous avons commencé au mois de juin, il y a actuellement des paroisses entières qui accueillent les vierges pèlerines. On a eu encore ce mercredi, c'était en Autriche, à Knittelfeld.
On voit quelques images sur l'écran.
Voilà, une grande procession avec le père abbé de l'abbaye de... Sekao, qui a organisé une grande procession dans la ville de Knittelfeld. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Disons, pour moi, c'est extraordinaire quand je vois ça, parce que je me dis, on n'avait pas prévu tout ça. On n'avait pas prévu, et c'est très beau.
Véronique.
Mais ça veut dire qu'en fait, la réévangélisation de la France passe quand même par des initiatives qui sont très tangibles, qui sont de l'ordre du sensible. C'est de la dévotion populaire, finalement.
Tout à fait, hein, tout à fait. C'est les chants, c'est les prières populaires. Le chapelet est une prière populaire qui est très simple. Et ce sont les chants populaires. C'est le Salve Regina que tout le monde connaît ou que tout le monde réapprend à connaître. Et puis les chants qu'on a entendus dans les églises, dans notre jeunesse et qu'on entend encore. Oui.
Thibaut Collin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la piété populaire, de renouer avec la piété populaire? Parce qu'il faut bien le dire quand même, on l'avait abandonnée pendant quelques décennies, y compris dans l'église. On considérait que c'était accessoire, ou voire de la superstition.
Bah parce que, effectivement, le christianisme est une religion de l'incarnation. Et c'est un des grands bienfaits, je trouve, du pontificat du pape François, hein, qui est très attaché à la piété populaire, de l'encourager. Et effectivement, cette dimension sensible est très importante. Alors, après, il ne faut pas que ça tombe dans le sentimentalisme. Mais le Seigneur, je pense, passe évidemment... par toutes ces médiations.
En tout cas, il y a une dimension populaire qui est Alexandre Caillé, une réaction là-dessus.
Nous, on travaille, enfin nous tous là, on travaille pour le visible, mais après c'est le Seigneur qui travaille dans l'invisible.
Il faut passer par le visible en tout cas.
Mais je passe. On reste des hommes.
S'en détacher. Alors Thibaut Collin, parlons de votre initiative à présent, Jeanne 2031. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Jeanne d'Arc donc pour cette neuvaine, hein, 9 ans de prière et de formation aussi, en tout cas d'étudier les tout ce qu'a dit Jeanne d'Arc et ce qu'elle a montré aussi par son exemple. Et est-ce que pour vous, c'est un exemple de conversion, finalement, à laquelle vous appelez tout un chacun, mais aussi la société tout entière ?
Je crois qu'on est tous plus ou moins habités par cette dimension où il faut attendre un homme ou une femme providentielle. Voilà, l'état de la France, l'état du monde, l'état de l'Église. Et il me semble que l'exemple de Jeanne est justement de montrer qu'il n'y a pas d'homme et de femme providentiels, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous appelés par Dieu, là où on est, à agir, et à discerner quelle est sa volonté sur nous, et à agir dans le concret de notre existence, de notre métier, de notre famille, de notre village, de nos associations. Et donc, il y aurait un contresens à imaginer que Jeanne 2031, c'est... Voilà, on va demander de nouveau à Jeanne de faire des miracles. Ou, en fait, le Seigneur, bien sûr, peut toujours faire des miracles, mais la plupart du temps, il passe à travers chacun d'entre nous, avec nos petitesses. Et en fait, Jeanne, ce qui est magnifique, elle a été choisie par Dieu en raison de son humilité. Sainte Thérèse de Lisieux a écrit 2 pièces de théâtre sur Jeanne pour les récréations qu'elle faisait au Carmel. Et la première est sur la vocation de Jeanne. Et je trouve bouleversant de voir que Thérèse voit en Jeanne sa grande sœur, parce qu'elle était déjà dans cette petite voie de l'enfance, c'est-à-dire de cette humilité, ce que Peggy a repris aussi. Et donc, en fait, pour se mettre à la suite de Jeanne, il faut revenir à cette conscience de notre pauvreté, de notre humilité. Et Dieu nous appelle, non pas en dépit de cette pauvreté, mais parce que nous sommes pauvres et que nous avons conscience. Mais évidemment, ça demande qu'on ouvre notre cœur et qu'on soit disponible.
Mais il y a quand même un paradoxe à faire appel à cette figure de Jeanne, puisque Jeanne, c'était une combattante, c'était une guerrière. Là, vous nous parlez d'humilité et de petitesse, finalement. Comment est-ce que cette humilité permettra de réévangéliser la France ?
Alors justement, parce qu'elle avait cette humilité et qu'elle a su écouter à travers ses voix et donc la voix du Seigneur, ce que le Seigneur lui demandait, qu'elle a eu cette audace impressionnante et que nous, je pense que nous pouvons tous vivre dans notre vie, évidemment, en fonction de ce que Dieu nous appelle, donc pas forcément en prenant les armes. Après, elle avait son étendard, et l'étendard, c'est l'étendard du Christ. Et elle est venue,
du Christ
justement,
roi.
Du Christ roi, et elle est venue, en fait, remettre les choses à leur place. Les Anglais en Angleterre, le roi sacré à Reims. Et en fait, elle rappelle, je pense, quelque chose de très important pour nous aujourd'hui, qui est ce sens des limites. Le Seigneur, en fait, a créé un monde ordonné, et ces limites, il y a une bénédiction des limites. Et en fait, c'était la guerre de Cent Ans, c'était une sorte de chaos politique, institutionnel et ecclésial. Et en fait, le Seigneur, il remet de l'ordre, mais il remet de l'ordre, c'est-à-dire des limites, par des biais qui ne sont pas purement extérieurs, mais avec cette ardeur. Et je pense que Jeanne est une combattante et que Dieu nous appelle à combattre en prenant les armes adéquates.
Louis-Pierre Laroche.
Oui, puis je pense surtout aussi, si on voit Jeanne au début, c'est une, permettez-moi l'expression, c'est une gamine de 17 ans qui cause plein de problèmes avec ses révélations, etc. Elle pose plein de problèmes à sa famille et à tout son entourage. Mais elle a cette audace d'aller braver l'autorité politique d'abord et puis ensuite l'autorité religieuse. Et puis, parce qu'elle a reçu aussi des voix, parce qu'elle a reçu une révélation, ce que nous n'avons pas reçu, mais elle a cette audace-là. Et c'est un peu ce qu'on rencontre de Chirard dans notre action du chapelet, c'est que parfois, il faut braver aussi le maire qui voudrait qu'on ne dise pas le chapelet.
Il y a des oppositions et des obstacles.
Oui, on a eu quand même quelques petites oppositions. Et parfois, il faut aller braver aussi le curé qui dit « Allez dans l'église, mais pas dehors ».
Alexandre Caillet, une réaction.
Vous parlez de combat. Là, c'est du combat qu'il faut mener, mais du combat plutôt spirituel. C'est pas, on n'est plus à l'époque des armes, etc. Là, c'est vraiment spirituellement qu'il faut, et ce que vous faites par la prière avec les chapelets, etc. Et ce qui est beau dans la prière, justement, c'est que toute prière appelle à une action. Sinon, ce ne serait pas vraiment de la prière. La prière amène à l'action, une action charitable, et du coup, on revient sur le concret, quoi.
Et puis, il y a aussi une dimension politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire qui concerne évidemment toute une société.
Et je pense que Jeanne peut contribuer à reviriliser le christianisme contemporain, paradoxalement, parce qu'il y a ce sens du combat, bien sûr le combat spirituel, mais un combat qui s'incarne dans les enjeux, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui,
intellectuel,
notamment le combat
politique.
Sur l'euthanasie, etc. Est-ce qu'on va puiser, à l'exemple de Jeanne, dans les vertus théologales et le courage, la prudence, ce sens de la justice pour étendre le règne de Dieu sur les affaires humaines aussi.
Alors malheureusement, il nous reste quelques minutes à peine. J'aimerais quand même terminer par une question sur l'efficacité finalement des actions que vous menez. Parce que, par exemple, Thibault Collin, vous avez un précédent aussi avec les évêques polonais qui ont là aussi avaient demandé une neuvaine de 9 ans contre le communisme, pour faire simple. Et quelle a été l'efficacité?
Alors,
on demandera ensuite
plus précisément, c'était 9 ans pour préparer le millième anniversaire du baptême de la Pologne en 1966. Et alors, dans un contexte, évidemment, de la Pologne communiste, les fruits, on les connaît. C'est d'abord cet approfondissement de la foi chrétienne.
Donc, on était dans les années 60. Hein,
voilà, donc ça finit en 66. Et puis, les décennies après,
ça prend du temps quand même.
L'élection de Karol Wojtyła pontificat. Donc, on voit les fruits, mais effectivement, le temps de Dieu n'est pas un temps forcément très court.
Là aussi,
il faut accepter d'entrer dans cette patience, mais ce qui ne veut pas dire s'endormir. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui ?
Louis-Pierre Laroche, l'efficacité de la prière.
On l'a vu très clairement en France, puisque le 30e chapelet qui a été prié, donc le 31, c'est quelque chose de très chrétien, c'est symbolique. Le 30e
30 jours,
chapelet.
Hein, 30 jours de.
Oui, là, c'était 30 semaines. C'était le 3 août. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4 août ? La décision a été prise au Parlement d'abolir la loi sur l'état d'urgence Covid. Donc on avait prié pour que ça se résolve dans la paix et ça s'est quand même résolu en grande partie dans la paix.
Exemple concret.
Et vraiment, le lendemain, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mercredi, on a prié, mercredi 3 août, on a prié, et le 4 août, ça s'est résolu, alors que personne ne s'y attendait trop.
Alexandre Caillé, le mot de la fin, l'efficacité de votre action à SOS Calvaire, est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'il faut la mesurer? Est-ce qu'il faut la chercher? D'ailleurs, on peut se poser la question.
Alors nous, on a des objectifs tout à fait tangibles. D'ailleurs, je me permets de corriger, vous avez dit 10 croix par mois. En fait, il y a 2 ans, on avait une antenne en France. Maintenant, on en a 51 depuis hier. Donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et chaque antenne restaure une croix par mois. Donc on a environ une cinquantaine de croix par mois restaurées. Et on a plus de 500 bénévoles, etc.
Dont des femmes aussi, hein, vous avez une branche
tout à fait, il y a
féminine, on va dire, les consolatrices.
Exactement, nous avons les bâtisseurs et les consolatrices qui, elles, restaurent les crucifix, les statues, etc. Et qui, elles, restaurent la foi dans les foyers et qui sont très efficaces aussi. Et après, notre résultat, on n'a pas vraiment... Donc nous, en termes de croix, on peut le mesurer. Après, ce qui se passe dans les cœurs, on est un peu moins... précis, mais on a des beaux exemples de conversion. On a des personnes qui passent en dessous des radars des paroisses et qui pour autant restaurent en tout seul des calvaires. J'ai un très beau témoignage à Sèche-sur-le-Loir d'une personne qui, en fait, quand on fait une pose de croix, on doit déposer la croix, la restaurer et ensuite la reposer. Et cette personne, ça nous a pris 2 semaines. Pendant les 2 semaines, cette personne nous a dit qu'elle s'était faite cambrioler parce que son protecteur n'était plus là. Et elle parlait du Christ, alors que voilà, elle n'était pas forcément croyante.
Donc des beaux chemins qui se passent dans les cœurs. Merci en tout cas, et puis je renvoie à vos sites internet respectifs pour découvrir ces initiatives, peut-être y participer. Thibaut Collin, donc, c'est Jeanne 2031, et ça commence ces jours-ci. Louis-Pierre Laroche, La France Prie, et on peut retrouver également sur votre site internet l'initiative des Vierges Pèlerines. Ouais. Alexandre Caillé, le site SOS Calvaire également, où vous trouverez tous les renseignements. Véronique, en 2 mots, la lecture conseillée de la semaine.
France catholique, bien entendu, avec qui fait sa une sur la sainteté de l'Église pour répondre à toutes les crises. Qu'est-ce que cela signifie, la sainteté? Ça signifie pour l'Église, hein, qu'elle est sans péché, dit-on, mais non pas sans pécheur. Explication donc dans France catholique et sur france-catholique.fr.
Merci à tous. Dimanche prochain, nous continuerons notre progression vers Noël en explorant justement le mystère de l'incarnation. En quoi est-ce que c'est une spécificité du christianisme? À suivre aussi samedi prochain, les belles figures de l'histoire à 11h sur la figure de Saint Potin, un évêque lyonnais. Ce sont les racines chrétiennes de Lyon qui seront évoquées. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à France Goldfarb pour l'édition et l'info continue sur CNews.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.